Alors, mon cher Gab, t'as une grosse nouvelle pour nous dans le domaine de la musique. Les fans de Justin Timberlake vont être ravis.
Oui, absolument. Donc, c'est finalement confirmé qu'il sera de passage ici à Québec le 13 octobre 2018 pour la tournée de Man of the Woods. Il y avait des bonnes rumeurs en fin de semaine comme quoi ça allait être annoncé après justement le show de la mi-temps du Super Bowl qui s'est produit hier. Les billets vont être en vente le 19 février à 10h sur Gestev et Ticketmaster pour un spectacle de Justin Timberlake au Centre Vidéotron.
Ben moi, Justin Timberlake, je l'aime d'amour. Je le trouve absolument extraordinaire comme comédien. Je le trouve absolument extraordinaire. Musique, moins. Mais comme comédien, je le trouve extraordinaire.
Et comme danseur, hier, en tout cas, il s'est fait aller pas mal au Super Bowl, je te dirais.
Ouais, ben moi, je l'ai pas vu. J'étais au musée en train de regarder une exposition sur Napoléon, c'est pour dire.
Bon, mais ça fait un billet de plus pour les spectateurs au Centre Vidéotron.
Ouais, exactement. Voilà. Mais merci beaucoup de nous en avoir parlé, Gab. Alors, je vous en ai parlé avant la pause. Écoutez, c'est une histoire absolument extraordinaire. Un policier québécois qui a mis au point une méthode d'interrogatoire. Il a mis ça au point dans les années 90. Et tout récemment, en France, il y avait un meurtre qu'on n'arrivait pas à élucider. Puis, les policiers français ont eu recours à cette méthode d'interrogatoire et ils ont réussi à faire craquer le suspect, donc qui a admis avoir tué sa femme, son épouse. Alors, on va parler avec le créateur de cette méthode d'interrogatoire, Jacques Landry, qui est en ligne. Bonjour, Monsieur Landry.
Bonjour, Madame Durocher.
Ben d'abord, félicitations d'avoir permis indirectement d'avoir résolu un meurtre comme ça en France. Alors, cette technique d'interrogatoire que vous avez inventée, rappelez-nous dans quel contexte, il y a 20 ans, vous avez mis au point cette méthode-là?
Ben, il y a 20 ans, j'étais enquêteur pour la Sûreté du Québec.
Ouais.
Et puis, au fur et à mesure que je conduisais des entrevues et des interrogatoires, j'étais fasciné de voir comment l'être humain... arriver en l'espace de quelques heures à se confier à un parfait inconnu, en fin de compte.
Ouais.
Et aussi, ce qui fonctionnait pas. J'ai commencé à prendre des notes. À l'époque, on avait des agendas. Et je prenais des notes sur des petits post-it que je mettais à chaque date ou chaque entrevue.
Ouais.
Et puis, à un moment donné, en 96, il y a eu un comité qui a été mis sur pied en demande du ministère de la Sécurité publique et de la Justice pour revoir nos méthodes d'entrevue interrogatoire, puis la population exigeait beaucoup plus de transparence de la part des enquêteurs au niveau du comportement autant du suspect que des enquêteurs.
D'accord.
Et j'ai été répondre à ça, j'ai suggéré des choses, et puis après, j'ai été mandaté pour aller mettre sur pied une formation. J'ai pris toutes mes petits post-it, puis j'ai été voir un peu partout dans le monde ce qui se faisait. Et j'ai préparé une approche que j'ai enseignée pendant plus de 20 ans, que j'enseigne encore à l'Université de Montréal. Et cette approche-là était basée sur l'être humain beaucoup plus que sur une méthode qui était beaucoup plus coercitive ou encore intrusive lorsqu'on rencontrait quelqu'un.
D'accord. Alors, par exemple, mettons que moi, vous me faites un interrogatoire, je suis arrêté parce que je suis suspect dans un crime. La méthode traditionnelle, ça aurait été quoi? Quand vous dites que c'était plus intrusif ou que c'était plus coercitif, il y a 20 ans, vous l'auriez mené de quelle façon, M. Landry?
Ben, je l'aurais confronté avec des preuves j'en avais ou des versions de témoins si j'en avais. J'aurais confronté avec le fait que si vous travaillez ou travaillez pas, et c'est les méthodes. On aurait utilisé la preuve, et ça devient confrontationnel.
Okay.
Aujourd'hui, c'est pas ça. L'être humain est au centre. On regarde ce qu'il vivait, on regarde la période où l'événement s'est produit. On regarde un petit peu avant la période, et on regarde après le geste, comment il se comporte. C'est okay. l'état émotionnel de l'individu dans ces trois étapes-là qu'on veut savoir, qu'on veut connaître.
D'accord.
Parce que moi, par expérience, je sais très bien que lorsque l'individu passe au geste, à l'intérieur du 6 mois du geste qui a été posé, il y a eu de sa part soit une situation familiale, sociale ou économique qui s'est débalancée, qui a mal été. Ouais, ça, je sais ça.
Okay.
Et tout le monde le sait aujourd'hui, parce qu'on en parle, et mes étudiants, ceux que, à qui j'ai enseigné, le savent. On regarde un petit peu en arrière, puis on va chercher l'élément déclencheur, et on prend le temps d'écouter cette charge émotionnelle-là que l'individu a. Parce qu'ils ont tous une charge émotionnelle. Faut pas se cacher ça.
Mais ce qui est passionnant, M. Landry, c'est que on est passé d'un policier-policière qui est beaucoup plus dans le « mon Dieu, la preuve », puis « bon, tu sais, les faits », puis « tu vas l'avouer », puis tout ça, à quasiment une job de psy.
Oui, exactement, vous avez tout à fait raison. Mais c'est un job de psy, mais faisons attention, parce que moi, je dis tout le temps, puis la connaissance, vous savez, ça s'acquiert par l'expérience. Puis, je ne suis pas le premier à le dire, il y a un grand homme qui le dit, c'est Albert Einstein. Ouais. Puis, tout le reste, c'est juste d'informations. Fait que, avec le temps et avec l'expérience, on s'aperçoit que la charge émotionnelle d'un individu, là, elle commence avant le geste qu'il pose. Elle devient encore plus forte au moment où il pose le geste. Et après ça, il vit avec encore plein d'émotions, soit de regret, de remords, puis il essaie de rationaliser ce qu'il a fait. Il essaie de se donner une excuse. Mm-hmm. Mais il n'y a personne qui prenait le temps de faire ça avant d'écouter ça. Le facteur de motivation, il est beaucoup plus important que la preuve.
Attendez, c'est important, vous dites. Le facteur de motivation est plus important que la preuve. Donc, c'est plus important de comprendre. Mettons, quand on parle dans ce cas-ci, dans le cas qui est en France, c'est une jeune femme qui avait été retrouvée, son corps brûlé dans une forêt, je pense. Et on avait interrogé son mari. En fait, c'est son mari lui-même qui avait signalé la disparition de sa conjointe.
Oui.
Finalement, en utilisant votre méthode, on a réussi à lui faire avouer que c'était lui qu'il avait tué. Il y avait une chicane, ça a mal viré. Donc, il s'est sûrement passé quelque chose dans les 6 mois précédents pour mener à la chicane entre ces deux-là. Donc, c'est ça que les policiers ont réussi à découvrir.
Exactement. Puis, lorsque je leur enseigne, je leur dis, allez rassembler tous les éléments qui ont pu amener un individu à se rendre à ce geste-là dans les derniers 6 mois. Et là, ils sont aperçus dans les derniers mois. Ils vivaient un conflit tous les deux. Les deux voulaient avoir un enfant. À un moment donné, ça ne fonctionnait plus. Et à un moment donné, il y a eu des disputes, il y a eu des arguments verbaux, il y a eu même quelques... ce que j'en sais, là, il y a eu quelques violences physiques. Mm. Donc, un traitait l'autre d'impuissant, puis ça n'allait pas bien.
Ouch! Oui.
Ouais, c'est ça. Ouais, vous voyez comment c'est un gros ouch qu'ils ont vécu, et puis il y en a un qui n'a pas sauvé. Et après ça, il savait plus quoi faire avec. Puis, dans l'événement lui-même, il confie qu'à un moment donné, il était préparé pour aller faire son jogging. Et puis, c'est là que ça s'est passé. Puis, lui-même, après, il a mis ses souliers d'exercice alors qu'il était déjà décédé. Mm. Et puis là, il a convité à quoi faire avec le corps. Et puis tard, il a mis le corps dans son auto, et il l'a amené dans un petit boisé, puis il l'a laissé là. Mais dans le moment, faisant attention, parce que c'était une verbalisation, l'individu, il met en accusation, mais le tribunal ne s'est pas penché là-dessus.
Voilà, c'est ça, vous avez raison. Les faits n'ont pas été prouvés en cours, donc il faut se garder une petite gêne. En même temps, on n'a pas mentionné leur nom, donc de toute façon, je pense pas
non,
que...
Non, c'est ça.
En France...
Donc, d'accord avec vous, mais en même temps, c'est quand même intéressant. Ça
mais oui.
Ce que je vous dis, l'avant, le pendant et l'après est extrêmement important. Mais avec les méthodes conventionnelles, on touchait vraiment l'avant, on touchait vraiment l'après, on touchait vraiment même le pendant, on y allait toujours avec la preuve. C'était très conflictuel. Puis moi, je trouvais qu'il y avait peut-être des points à enlever. Puis, je lui ai soumis cette recette-là. Puis je trouve que depuis 20 quelques années, elle fait du bon travail.
Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que, par exemple, dans ce cas-là, normalement, on aurait dit, qu'est-ce que tu faisais le jeudi 28 novembre entre 9h et 10h? C'est quoi ton alibi? Où est-ce que t'étais? Puis là, on aurait regardé, on aurait fait de la triangulation avec son cellulaire en disant t'étais à tel endroit, etc. Alors que là, en comprenant les motivations ou en comprenant le contexte familial, c'est sûr que se faire traiter d'impuissant par sa blonde parce qu'on n'arrive pas à avoir des enfants, ça peut créer une sorte de paroxysme là qui fait qu'à un moment donné, oui, le gars il est juste plus capable, puis là il tue sa femme. Est-ce que cette méthode là que vous avez mise au point, qui est beaucoup plus psychologique, c'est une méthode qui peut s'appliquer seulement pour résoudre des meurtres ou par exemple des agressions sexuelles aussi, ça peut, cette méthode là peut s'appliquer?
Tous les types de crimes ça peut s'appliquer.
Oui.
Oui, 95% des crimes sont à caractère émotionnel. Mais 5% où le suspect potentiel a moins de liens avec ses victimes. C'est souvent des types de crimes. Un exemple, le clonage de vos cartes de crédit, je ne sais pas si ça vous est arrivé. Moi, malheureusement, ça m'est arrivé.
Non, jamais.
La carte de crédit, les propriétaires ne donnent même pas le nom du commerce où on est allé.
Ouais.
C'est un bidule électronique qui est installé pour cloner notre numéro d'identification personnelle. Et il n'y a pas de lien, il n'y a pas de contact entre la victime et celui qui a installé ce fameux bidule-là de clonage. Ça, c'est vraiment non émotionnel. Ceux-là, il faut avoir vraiment beaucoup plus de preuves que de travailler sur les émotions. Mais ce n'est que 5% des crimes. 95% sont émotionnels. 95%.
Mais ça, c'est une donnée absolument fascinante. Donc, mettons que vous avez un cas. Par exemple, je vous donne un autre exemple de crime. Consommation ou production de pornographie juvénile. Avec votre méthode, on pourrait, par exemple, confronter quelqu'un, pas nécessairement avec de la preuve, mais le confronter et en l'écoutant et en le faisant revenir sur son passé proche, et là, obtenir une confession lors d'un interrogatoire.
Tout à fait, tout à fait. Je l'ai vécu moi-même, j'ai eu plusieurs dossiers de ce type-là, et je sais que ça fonctionne très, très bien. Ouais.
Mais
milliers de faits, vous savez.
Pardon?
J'en ai plusieurs milliers de
cas
d'interrogatoires de faits avec mon approche et ça fonctionne très, très bien.
Est-ce que votre approche, le fait que vous l'ayez mise au point et qu'elle soit utilisée, est-ce que vous en tirez des dividendes? C'est-à-dire, avez-vous des droits d'auteur sur cette méthode-là? Je ne sais pas, c'est la méthode Landry. Puis
non, la méthode Landry. C'est pas que je vais donner mon nom, vous ne l'avez pas donné, mais c'est... Non, j'en retire absolument rien à part du bénéfice que j'ai aidé, puis je pense que j'aide encore, soit la société, les enquêteurs, à avoir une nouvelle approche. Tout le monde aime quand il faudrait qu'on fasse une analogie qui est un peu simpliste, mais c'est comme faire une recette. On aime bien avoir la copie de la recette, puis savoir comment, qu'est-ce qu'on peut avoir oublié ou qu'est-ce qu'on devrait faire. Et c'était un peu ça. C'est certain que j'ai des droits intellectuels là-dessus, mais j'ai formé tellement d'enquêteurs un peu partout dans le monde que aujourd'hui, chacun se l'approprie à sa façon.
Ouais. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est de penser que ce que vous avez élaboré en 1996 ici au Québec, que vous soyez après allé former, puis vous continuez à le faire, des policiers un petit peu partout à travers le monde et ici au Québec. Donc ça veut dire que par votre éclair de génie que vous avez eu, vous avez réussi à améliorer partout sur la planète le système de justice. Vous devez, enfin, moi je vous remercie au nom de tous les gens qui ont pu avoir été un jour ou l'autre victimes d'un crime. Vous avez contribué à assainir le système de justice finalement.
Je pense que oui, je vous remercie, mais c'est un travail, vous savez, c'est un travail de longue haleine. Pour moi, c'est une passion. Et j'ai mis ma carrière là-dessus. Ça fait 44 ans que j'interroge. Et puis, j'étais passionné par ça. Puis, je portais attention. Surtout, je portais attention à l'être humain. Bien des fois, je vois des interrogatoires. La personne n'écoute pas là. Des fois, ils ont un préjugé, ils ont une idée préconçue. Il faut rentrer à l'intérieur de cette salle-là et dire, ben je laisse de côté ces choses-là. Je vais aller écouter une personne qui a vécu un drame. On va aller voir ce qu'on peut aller chercher avec cette personne-là, c'est tout.
Ouais.
Non, mais ma valorisation, mon plaisir, c'est justement d'entendre que, vous savez, ce dossier-là qu'on parle, moi, je l'ai appris, on m'a envoyé un message Internet pour me remercier. Je l'ai appris comme ça.
Wow.
Et ça vient de l'extérieur. Vous savez, il y a plein de dossiers au Québec qui ont été résolus par des enquêteurs qui ont suivi ma formation. Et souvent, je n'entends pas parler ou encore ces enquêteurs humains qui m'appellent. Ils ont différentes formations et je n'en reçois pas. Je ne reçois pas d'appel. Il ne m'appelle pas pour me dire merci. Là. J'entends pas ça souvent.
Est-ce que vous diriez qu'à ce moment-là, vous avez plus de reconnaissance à l'international qu'ici même au Québec?
Tout à fait, oui.
Oui?
Bizarrement. Oui, bizarrement.
C'est plate?
Mais c'est comme ça. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça. Mais j'ai beaucoup de plaisir. Vous savez, je faisais quoi à l'université dans le bac? On appelle le bac quand t'es sujet policier et ces choses-là, qui étaient au département criminel. Il a choisi beaucoup de valorisation de mes élèves, mes étudiants tous les ans. Et je me dis en plus, ben ça peut aider notre système judiciaire. Parce que c'est très transparent. Hein, tout est enregistré au lieu de bio. C'est ça. Ça aide la société, comme vous disiez tantôt. Moi, je pense que ça a fait un petit pas pour aider cette méthode-là ou cette approche-là. Changer les perceptions aussi. Ouais.
Est-ce que vous écoutez District 31?
Oui.
Puis comment vous trouvez que les policiers du poste 31, trouvez-vous qu'ils font une belle job d'interrogatoire ou Luc Dionne devrait aller suivre une formation avec vous?
Ben vous savez, je sais pas, moi je connais pas les prérequis pour faire un bon spectacle d'une émission qui dure 30 minutes par jour. Mais l'affaire qui est sûre, sa salle d'interrogatoire, on n'a pas de salle comme ça. Le téléphone, il dérange les enquêteurs aux 2 minutes, puis il change l'enquêteur à chaque 2 minutes. Ça fonctionne pas, ça.
C'est pas réaliste.
C'est beau à télé. Non, c'est pas réaliste du tout. C'est très avancé. Mais quand même, je vois des belles ouvertures, je vois des idées ou encore des perceptions qui sont mises de l'avant. C'est correct, mais... il faut vraiment que l'individu soit bien écouté. Il faut écouter ses émotions aussi. N'oubliez pas que c'est l'individu, quand il pose un geste, là, il est en pleine charge émotionnelle. Si on n'écoute pas ça, on ne va pas nulle part. Mais il faut que ça soit sincère, notre écoute. Mm-hmm.
Oui, c'est ça. L'écoute est importante. Puis en même temps, je veux pas que les gens pensent que vous êtes en train de dire que le policier, il doit faire du minouche-minouche avec le criminel, là, en disant, oh mon Dieu, pauvre toi, t'as tué ta femme parce que t'as vécu une enfance difficile. C'est pas l'idée, c'est pas de se mettre à la place du criminel. C'est d'écouter les émotions qu'il a vécues et qui l'ont mené au geste.
On joue peut-être un petit peu, ça sent peut-être, ou on peut comparer ça à ce qu'un psychologue fait, absolument pas, parce que nous autres, on n'est pas là pour traiter personne, vous savez.
Ben non.
On les traite pas, on est là pour avoir la vérité. Mais si on écoute comme faut, c'est sûr qu'il va livrer des choses, peut-être il livrerait un psychologue, là, Et là, il se sent peut-être écouté pour la première fois. Si votre écoute est sincère, est honnête, moi, je donne souvent un exemple, quand je pose une question qui est difficile, quand j'arrive à la période du moment du crime ou autre, je pose une question difficile. Un exemple, vous parliez tantôt de personnes qui font des délits à caractère sexuel, de personnes d'âge mineur. Lui demander, toi, est-ce que ça t'a déjà tenté ou est-ce que tu as déjà eu des fantasmes envers des personnes d'âge mineur? Vous savez, c'est dur, cette question-là. Ouais. Et là, je vais le voir réfléchir, puis un bon silence, je vais réfléchir, je lui dis, vous avez de la difficulté à cette question-là. J'ai l'impression que vous êtes mal à l'aise. Il faut refléter ce qu'on perçoit comme émotion. Il n'y en a pas beaucoup qui font ça. Il faut le faire. Il faut le faire.
Mais en fait, en même temps, ce que vous décrivez, c'est exactement la job d'un journaliste. C'est exactement la job de quelqu'un qui fait des entrevues. Tu sais, on écoute.
Vous n'osez pas vous le dire, mais je sentais que c'était pour venir, là.
Ben, c'est de l'écoute active.
Oui.
C'est d'écouter aussi ce qui n'est pas dit. Et c'est parfois de reformuler ce que la personne vient de dire.
Le journaliste, il a une perception. Si sa perception est qu'il y a autre chose à lui chercher, il va reposer sa question. Et c'est normal. Mais nous, on devrait, en tout cas, moi ce que j'enseigne, c'est qu'on devrait le faire. Il faut le faire. Sans ça, on n'écoute pas vraiment. Paraphraser ce qu'un individu vient de nous dire, c'est de démontrer une belle écoute.
Ouais.
Mais il faut utiliser les paroles qu'il vient de nous dire.
Mais dans l'exemple que vous avez donné, que je trouve fascinant, normalement, moi, si vous me posez la question, as-tu déjà eu des fantasmes sur les enfants, ça va me prendre 3 secondes à répondre. Ça va être une réaction spontanée de dégoût et de réponse claire. Il suffit par contre, si la personne, elle prend du temps puis elle y réfléchit puis que ça la met mal à l'aise, c'est peut-être un signe de quelque chose aussi, là.
Et bien certain, et là, c'est à ce moment-là qu'on va tenter de valider avec lui si c'est allé plus qu'à une pensée et c'est allé à
un passage à l'acte.
Ben oui. Mais faut le mettre sur la table. Des fois, on a des craintes. On n'a pas à avoir de craintes. Il faut les présenter, ces questions-là. On est là pour ça.
Est-ce que vous diriez, monsieur, est-ce que vous diriez, monsieur Landry, que la jeune génération de policiers à qui vous vous donnez des formations, qu'elle est plus, qu'elle est meilleure pour faire ce type d'écoute et ce type d'interrogatoire, parce que on a l'image plus traditionnelle peut-être de la police qui est plus justement dans ses méthodes. Est-ce que la jeune génération qui arrive est plus souple et plus ouverte à ce genre de pratiques un peu différentes?
Non, je vais vous dire que j'ai l'impression que c'est un peu l'inverse. Il y a une contamination qui est arrivée avec les médias sociaux, les tweets de ce monde, les Facebook de ce monde. C'est facile de se parler, puis envoyer un texto, envoyer je sais pas comment de mots dessus, avoir personne devant soi. Mais quand tu es assis dans la salle avec quelqu'un, ils sont pas habitués à ça. Le contact social, ils l'ont plus vraiment.
Même vous, sérieux?
Moi, je trouve que c'est dangereux de marcher sur un trottoir parce que tout le monde regarde son téléphone. C'est difficile. Et ça, ils sont très à l'aise avec leurs pouces, là, mais ils ont de la difficulté avec le contact humain. C'est difficile.
Excellent.
Mais il y a des bonnes personnes. Moi, je vois que c'est comme dans le reste. Dans chaque équipe d'enquêteurs, il y en a qui ont des facilités que d'autres n'ont pas, vous savez.
Bien sûr.
Ça, c'est correct. Ouais, le côté humain, développer l'empathie, il y a même des études qui prouvent que c'est pas tout le monde qui éprouve la même empathie qu'envers un autre être humain. Et on recherche ceux qui en ont beaucoup pour faire ce travail-là.
C'est ça, c'est-à-dire que tous les policiers, ben, chaque policier a ses forces. Il y en a qui sont très bons sur le terrain, il y en a qui sont très physiques, il y en a qui sont meilleurs que d'autres dans les interrogatoires, il y en a qui arrivent à avoir une vision d'ensemble, donc qui sont meilleurs dans les enquêtes pour mettre les éléments de preuve ensemble. Chacun a ses forces, mais ce que je retiens de ce que vous me dites, c'est fascinant, que les jeunes sont moins habitués avec l'interaction humaine, puis la méthode que vous décrivez, ça prend de l'aisance avec l'interaction humaine. C'est fascinant.
Tout à fait. Oui, plus ça va, plus je le vois, parce que pour eux autres, là, la communication, c'est juste un téléphone puis deux pouces. Pour moi, c'est un petit peu une aberration. Je peux pas faire un bon intervieweur puis un bon enquêteur avec ça. Là. C'est difficile.
Incroyable. Ben, c'est intéressant parce qu'à partir de quelque chose qui peut sembler anecdotique, ben finalement on en arrive à une conclusion peut-être plus sociologique. C'est le rapport entre les êtres humains aujourd'hui est en train de changer. Puis c'est intéressant parce que la semaine dernière, je faisais une entrevue avec Paul Laurier, donc un ancien, lui aussi, de l'ASQ. On parlait de ce qui s'est passé à Maniwaki et lui nous faisait remarquer la personne qui filme l'interaction entre l'agent de sécurité et le jeune qui résiste à son arrestation. Ben, la personne, elle filme. Au lieu d'aller porter de l'aide, au lieu d'aller essayer de calmer les esprits, la personne est fine, elle reste derrière son cellulaire. Ça en dit long quand même sur la société où on vit, hein.
Oui, tout à fait.
Monsieur Landry, vraiment, on va se quitter là-dessus, mais vraiment, ça a été un plaisir de vous parler, drôlement intéressant. Donc, Jacques Landry, ancien policier, polygraphe, chargé de cours en criminologie à l'Université de Montréal. Et c'est vous qui avez inventé donc cette technique d'interrogatoire il y a plus de 20 ans. Et ça vient de permettre en France à résoudre ce meurtre d'une jeune Française. Et pendant des mois, hein, en France, on se demandait qui avait tué cette jeune femme. Et là, il semble que ce serait son conjoint suite à une chicane de couple. En tout cas, merci beaucoup pour tout le bien que vous avez fait en permettant justement de mettre la main au collet de criminels de toutes sortes. Ça a été un plaisir de vous parler.
C'est la même chose pour moi. Merci, Mme Durocher. Bonne journée.
Mais j'espère que j'ai fait un bon interrogatoire. Là. Je vous ai fait avouer plein de choses. Là.
vous êtes à la hauteur.
Détective Durocher, moi, si jamais je perds ma job comme journaliste, à un moment donné, je m'en irais faire des interrogatoires à la police. Vous allez voir qu'ils vont passer un mauvais quart d'heure.
Des bons interviewers, tout de la
Ils vont passer un mauvais quart d'heure, les criminels. Je vous en passe un papier. Merci beaucoup, Monsieur Landry. Bon, ben en tout cas, si j'interview un criminel puis que je perds la voix, ça va mal aller. Alors, je vais essayer de récupérer ma petite voix pendant la pause. Et au retour, justement, on va parler avec Maître François-David Bernier, qui est avocat et analyste judiciaire qu'on reçoit souvent ici à Boulevard 101. On va parler du procès Bissonnette. Comment on va faire pour trouver des jurés pour ce procès qui va être extrêmement suivi, sûrement le procès le plus suivi au Québec depuis des mois, si ce n'est des années.